Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du roman Melmoth Furieux de Sabrina Calvo, paru en 2021 chez La Volte.
Sabrina Calvo est une romancière, scénariste de bande dessinée, dessinatrice, conceptrice de jeux vidéo. Elle est née en 1974 à Marseille, ville où elle a ensuite grandi. Elle a publié un premier roman en 1997 et a depuis écrit de très nombreux romans et nouvelles. En 2012, alors que la France est secouée par les manifs d'extrême droite contre les droits familiaux LGBT, elle a l'occasion de travailler pour une succursale de son studio de jeux vidéo à Montréal et part s'y installer. Elle vit à présent sur la colline de Belleville à Paris. Elle parle publiquement de sa transidentité à partir de 2017. Ses romans sont profondément marqués par son ancrage géographique. Sous la colline se passe à Marseille, Toxoplasma sur l'île de Montréal, et enfin, le livre dont nous allons parler aujourd'hui, Melmoth Furieux, se passe à Paris, dans le quartier de Belleville. Dans ses romans, plusieurs fois primés, on retrouve ce qui la traverse intimement, entre autres des questions de transformation sociale et de révolution. Avec Sous la colline, elle aborde aussi la question de la transidentité. Dans Toxoplasma, elle transmet sa passion cinéphile pour les VHS et les séries Z, dont elle a hérité en visionnant des tonnes de vidéos grâce à sa mère, qui travaillait dans l'un des plus gros vidéoclubs de Marseille. Dans Melmoth Furieux, elle se plonge dans l'univers de la couture.
J'ai commencé cette pratique de couture début 2020, alors que je travaillais comme apprenti dans un atelier de couturière parisienne à Belleville, après des décennies à me concentrer sur autre chose, littérature, dessin, magie, virtualité. La couture, sous tous ses aspects, semblait tout mélanger en un seul, une recherche de la grâce. Ma grand-mère m'a appris à coudre et à dessiner dans son atelier de couturière, c'est pour elle.
Elle nomme son travail comme un pont entre la science-fiction, la mode, la poésie, le design de monde virtuel et la danse contemporaine, et travaille actuellement sur sa première collection. Elle enseigne la poétique de la mode à la Haute École d'Art et de Design de Genève et est directrice narrative chez Dontnod, une société qui développe des jeux vidéo.
Le roman Melmoth Furieux est une sorte d'uchronie dystopique qui se passe dans un passé ou futur assez proche, mais dans une branche temporelle parallèle qui a pourri à partir des années 90, pour reprendre les mots de l'autrice elle-même. La narratrice fille vit dans des squats du quartier de Belleville à Paris, après avoir échappé à la destruction de sa cité natale Loré-du-Bois, dans laquelle elle a tout perdu, ses affaires, sa famille, ses potes. Fille approche de la quarantaine. Elle est couturière passionnée, elle est pas mal paumée, et surtout, elle est très en colère. Notamment depuis que son frère Mehdi s'est immolé lors de l'inauguration du parc Euro Disney en 1992. Elle se retrouve maintenant dans la commune de Belleville, qui rassemble de manière assez hétéroclite différentes configurations collectives, dont énormément d'enfants et d'ados, qui résistent par les barricades et par l'entraide mutuelle à la répression et aux attaques des milices de la métrique, la mise en mesure du monde qui a succédé à la République, et aux troupes de la souris noire, maître du château à Euro Disney, qui est en train de soumettre le monde par son impérialisme de l'imaginaire. Dans sa quête de comprendre ce qui a poussé son frère à cet acte de désespoir, Fille va passer par de nombreuses rencontres et expériences excitantes, effrayantes, sensibles et déstabilisantes. Aidée par ses amis, le poète François Villon et une bande d'enfants perdus, elle se lance alors dans une croisade pour aller brûler Euro Disney et son monde. Thank you.
On sait depuis un certain temps déjà que la métrique opère suivant un plan précis, à travers toutes les couches de la société. C'est un dogme politique, implicite, qui a bouffé nos valeurs, nos amours, nos amis. C'est une sorte de symbole devenu autonome, tu vois ? Ce qu'il reste du monde ancien lui a prêté allégeance, sans même connaître son existence. On a plié devant la mise en mesure du vivant. Les forces de la sécurité privée de la souris en sont le bras armé, incarné. On sait qu'elles forment certaines brigades républicaines, qu'elles expérimentent des armes médiatiques et mortelles.
Le roman Melmoth Furieux raconte un monde dominé par des forces de coercition. Il y a la métrique, la mise en mesure du monde, l'algorithme qui quantifie tous les aspects de la vie, ennemi suprême du sensible et de l'affectif, qui est à la fois une doctrine de soumission aux impératifs technologiques, une logique commerciale, mais en même temps, c'est aussi une entité paramilitaire bien concrète, avec ses milices, drones et autres instruments répressifs. La métrique est épaulée par l'Empire de la Souris Noire, sorte de suzerain néo-féodal établi au parc de Disney, à partir d'où il déploie son impérialisme culturel féroce et prend en otage les imaginaires.
Le parc est devenu une citadelle fermée sur laquelle règnent des forces obscures. On voyait souvent passer des hélicoptères noirs dans le ciel, sombres requins effilés qui disparaissaient derrière les minarets. Et quand la métrique a décidé de raser les cités de l'Est et du Sud pendant la seconde vague d'épuration sociale, on a vu des troupes de la souris noire prendre place en tête des cortèges de morts. Leur tactique, leur présence, la souris noire dirigeait les mouvements sur le territoire proche. Et que cette terre était sienne, une invasion. D'abord, un cheval de Troie que la France a gobé dans sa soif de fric et de rayonnement. Puis une véritable entreprise de conquête, culturelle et maintenant répressive. Car notre commune n'est pas le résultat d'une misère, d'une invasion allemande, mais d'une conquête plus pernicieuse qui s'avance masquée avec deux grandes oreilles noires. Je vois les convergences d'oppression, les murmures derrière le voile de la propagande. Comme la métrique, la mise en mesure du monde avance ses pions planqués derrière les corporations. Je n'ai que mon instinct pour le sentir. Je n'ai rien de tangible.
Ces forces coercitives sont à la fois très présentes et dangereuses. Il y a des attaques, des morts et des blessés. Et en même temps, elles restent assez abstraites, ne sont jamais explicitées, un peu insaisissables. Ce qui en fait des sortes de monstres fantastiques. L'injonction omniprésente à notre époque du numérique de laisser des algorithmes organiser notre travail, choisir nos loisirs et trouver l'amour de notre vie prend forme ici dans des milices fascistes et des nuées de drones attaquant les corps en chair et en os. L'impérialisme culturel agressif de la société Disney, qui vend ses versions édulcorées, romantisées et moralisatrices de violences sociales hétéropatriarcales et coloniales depuis bientôt un siècle, s'incarne ici dans le spectre menaçant d'un Mickey Mouse assoiffé du désir de dominer le monde et qui mate toute résistance dans les geôles secrètes souterraines de son parc. Sabrina Calvo réussit vraiment bien à créer cette ambiance obscure et menaçante qui pose le décor pour le récit de filles. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question si transformer des problématiques qui sont en fait très concrètes et explicables factuellement en quelque chose d'aussi insaisissable, raconté quasi uniquement par des ressentis, par le sensible, n'est pas finalement une manière d'alimenter un mode de pensée complotiste, ce qui, de nos jours, ne me semble pas bien intéressant.
Malgré ce monde répressif et aseptisé, il y a des résistances, des communes. Et c'est au milieu de la commune de Belleville que Sabrina Calvo a choisi de créer le récit de Melmoth Furieux. Au cœur de la résistance et le regard tourné vers Disney, la métrique et leur répression.
La commune de Belleville n'est pas une sécession. À l'origine, c'était une solidarité. Les assos et les collectifs du quartier avaient recueilli les SDF du reste de la ville, après les grandes migrations interurbaines. On n'avait plus le droit de crever de faim dehors, et il y avait des chars partout en banlieue, et des tracteurs pour bien ranger les gens dans les rues. La guerre civile mondiale avait précipité le malheur. La métrique, qui avait absorbé la République, avait fait de Paris un miroir de cette Euro Disney reconstituée. Aucune tolérance pour ce qui ne collait pas avec l'image idéale d'une France éternelle, qui n'avait jamais existé. Toute forme de contestation éteinte dans le consensus, on avait gaiement poussé les plus pauvres à clamser, ou à finir ici, à Belleville. Dans ces ruelles imprenables, difficile pour les milices organisées de passer inaperçues. Nous avons trouvé un moyen de survivre aux pires calamités du monde moderne en tissant un réseau solidaire. Personne ne crève la dalle à Belleville.
Au rythme du texte, Sabrina Calvo nous emmène nous promener dans Belleville, à la découverte de la commune, de ses rues et de ses places à peine transformées, et de ses barricades qui s'élèvent au coin des rues. Même sans connaître Belleville, on s'y croirait.
Il fait tout gras dehors, de suie et de grelotte. Je m'enfonce dans mon cuir, je veux pas qu'on me voie. Je remonte la montée des Savilles, le pavé glisse, il a plu tôt ce matin. Rue des Cascades. Un groupe sur le trottoir, à la hauteur de la bibliothèque du Jardin Libre, semble se livrer à une danse rituelle. Place Crasu. J'essaye de me faire discrète. Je ne veux pas être reconnue. J'aurais pu éviter l'endroit, prendre par Pyrénées et remonter direct, mais je suis passée par là par habitude. Je vois les stickers de Dilemme partout, sur les murs de la place, dans l'ascension de la rue Levert. Cœur et foudre. Comme un territoire qui se dégage vers le sommet de la colline.
Mais la répression plane sur la commune de Belleville, oppressante et omniprésente. Et justement, un des trucs que j'ai trouvé trippant dans plusieurs des romans de Sabrina Calvo, c'est cette manière de parler de la fin des choses, ou plutôt de ce qu'il se passe juste avant la fin. Juste avant la fin du monde, dans Wonderful, ou juste avant la fin de la commune libre, comme dans Toxoplasma, ou précisément ici dans Melmotte Furieux. Elle raconte particulièrement bien comment la vie continue malgré la fin imminente de la commune de Belleville, l'attaque certaine de l'armée de la métrique, la répression fasciste qui marquera la fin.
Je me roule en boule. Je n'ai plus rien à dire. J'ai peur pour nous toutes. Personne ici ne sait ce qu'il faut faire. Il faut penser à fuir. Maintenant. Pourquoi personne ne parle de fuite? N'y a-t-il nulle part où aller? Villon passe les rideaux. Il regarde le chaos, fait un son de gorge et vient se poser près de moi. Chapation. Après un temps long, lourd débauche de larmes qui veulent pas sortir, je pose ma tête sur son épaule et nous restons là à regarder rien en particulier. Scotché. J'ai le sentiment d'une spirale vers nulle part. Plus aucun but, plus aucune énergie. Je crois que c'est vraiment la fin. Il n'y aura bientôt que des zombies à habiller, ou des spectres.
Elle décrit avec beaucoup de finesse les différentes réactions, les manières de se confronter à la dure réalité. Le déni, la peur, la colère, mais aussi la joie et l'espoir. Ce sont toutes ces émotions qui se mélangent et s'articulent dans le récit.
La commune n'est pas qu'une idée, ou même une démarche politique. C'est une vie, une circulation du vivant entre les pavés du pouvoir. Mais tout au fond de moi, il y a ce cri qui n'en finit pas, étouffé par la romance et le quotidien qui ne demande qu'une chose. Sors de moi, colère.
Le récit pourrait être tout à fait héroïque, Fi menant sa vengeance et s'organisant pour cramer Euro Disney. Mais ce n'est pas un récit héroïque, c'est un tissage de douleur et de colère, de doute, d'angoisse et de désespoir. Fi est en prise avec des émotions qui sont tout sauf héroïques. Elle se débat en elle-même, et c'est un truc qui m'a beaucoup touchée dans le récit. Montrer ces émotions qui sont souvent mises de côté et rangées dans la sphère du privé, de l'indicible ou de la faiblesse.
Je n'arrive pas à bosser. Je galère quelques heures sur ma mie en foirant mes tracés. J'ai l'impression d'avoir tout oublié. J'ai peur. Et si c'était colère qui, depuis le début, m'avait poussé vers ces robes, me prend l'envie de tout abandonner, là, tout de suite. Un désespoir si puissant qui pourrait emporter tout ce que j'ai construit de misère et d'éphémère. Je regarde le vêtement devenir, compost de fragments épinglés sur ton mannequin. Je ne sais plus ce que je voulais faire. J'ai perdu le sens de la couture. Je pourrais bien me tuer là, mais je décide plutôt de me rouler un joint bien gras et bien tassé.
Cette commune, dont la fin approche, ce sont des centaines de personnes qui vivent dans le même endroit, avec des manières de réagir et de fonctionner multiples, des aspirations et des enjeux différents. Et au fil du récit apparaissent, par petites touches, toutes les embrouilles que cela génère. Parce que cette commune, ce n'est pas juste une utopie mignonne, et c'est décrit de manière plutôt réaliste, si on peut dire.
Dans les gradins, ça dégénère. Une faction dissidente des blaireaux des Rigoles décide de manifester sa colère vis-à-vis des quotas d'eau. Des mémés Baston réclament une redistribution territoriale de Jourdain. Le pré Saint-Gervais s'oppose. On croit à la fiesta, on en vient au point. L'assemblée explose en salsa pugila, les lamas s'en mêlent, ça crache et ça défonce. Le comité de salut public déguerpit la queue entre les oreilles. Vous écoutez toujours Vortex et Rotative sur Campus Grenoble et Radio Dragon.
Aujourd'hui, on vous parle de Melmotte Furieux de Sabrina Calvo.
Parmi les différents groupes dans la commune de Belleville, il y a notamment une bande de gamins, les Têtards, qui sont vraiment assez impressionnants et touchants à la fois. Yels sont pour la plupart des orphelins et s'organisent de manière autonome dans leur squat.
L'étang, c'est 3 étages rue de la Mare. Au rez-de-chaussée, entrée sur cour, une arche et des enfilades de pièces, une grosse partie des murs abattus depuis longtemps. Personne n'aime les murs ici. Les Têtards ont un gros problème avec les murs. Une bande de gamins en parka qui passent leur temps shootés au pixel. Sac, patché et boombox custom Nouli. La capuche revient à la mode après des semaines de casquettes crantées et les collerettes et les cuirs cloutés. Odeur de friture et bootlegs de Prince à fond de solo. Just my imagination. Chat, chien, rat, souris, lézard, un écureuil même. Personne ne dort jamais dans les temps. C'est fiesta computer et choc à pic toute la nuit.
Ces gamins, qui connaissent la misère et qui sont aussi assez abîmés par les expériences de violences répétées, sont en même temps porteurs d'une énergie vitale qui ouvre plein de possibles. Yel forme quelque part le contrepoint à l'emprise de la souris noire sur l'imaginaire. Ça fait penser à des histoires comme Peter Pan ou Zora Larousse, où des enfants arrivent à s'extraire des rôles prévus pour eux dans un monde d'adultes. Sabrina Calvo les raconte avec leur puissance et leur vulnérabilité. Leur mode de vie est un mélange de choses choisies et subies à la fois, où des non-choix peuvent devenir des fiertés, comme par exemple dans leur rapport à la lutte, à la précarité ou à la drogue. C'est parmi elles et eux que la narratrice fille trouve refuge pendant un temps.
Je vais finir mon festin dans le salon. Les plus matinaux y terminent leur nuit en désordre. Pifou est enfoncé dans son fauteuil. Il joue à Echo sur une Lynx retapée. Comme beaucoup de têtards, Pifou est un orphelin. Ivre de Rice Krispies et de cravates Gucci couleur banane, c'est lui qui a ouvert le lieu. À mon arrivée dans le quartier, pour négocier une place au squat, je lui avais bricolé une petite chemise mèche toute custom. Puis j'avais raccommodé tous les doudous des têtards, alors ils m'ont vite adopté. « Elle t'a viré ?» il dit dans un sourire sans lever les yeux de son écran. Tu vas dormir ici alors ?» Haussement d'épaule. Du bout de sa ranger, il me désigne son doudou sur la table basse. Une araignée sinistre avec des grands yeux émerveillés. Celle qui l'a gardé tout ce temps. Celle qui lui dit les choses importantes dans les ténèbres du soir. Ça me brise le cœur de faire ça, de réparer son enfance. Vendre des rayons de lune, voilà l'effet que ça me fait. Je respire et je décroche des fils de ma manche. Puis une aiguille qui traîne. J'en laisse partout, anyway. Assise sur le tapis, je recouds au fil rose la mousseline susautée. Parfois, je m'interromps pour tirer une latte sur un joint qui tourne. Dans les salles voisines, ça hack en silence. À côté de cette bande de mômes abandonnés, passionnés, blasés, déglingues, camés, rêveurs, etc., on croise aussi des personnes très pragmatiques et très organisées qui participent aux assemblées, à la logistique de la commune, etc.
Farah rentre du marché de l'aube avec ses cagettes de légumes. Elle aime y être avant tout le monde. Elle dit que c'est comme partir au champ. Alors vous avez fait la fête hier? Tu vas aller voir PDF aujourd'hui? Bzz débarque avec sa couette et se met sous la table pour finir sa nuit. Je le masse avec mes pieds chaussettes. Il ronronne comme un gros chat. Alors, continue Farah en me tournant le dos, affairé à trier les mauvaises blettes. Je sais pas. Chérie, tu vas pas rester ici à faire de l'art? Elle dépose son regard quelque part sur les carreaux sales dans la lumière du matin. Tes robes, c'est important, mais on a une révolution sur les bras. J'ai attendu toute ma vie pour ça, mais c'est une longue vie. Pour la première fois, on a une chance. Je ne crois pas au combat. Ce ne sont pas les armes qui feront la différence. Je ne sais pas quoi répondre. Je mesure à quel point notre commune est un radeau tissé de cordelettes fragiles. Elle le sent, Farah. Délicate, elle ouvre mon poing crispé, regarde les lignes qui creusent la vie qu'on ne voit pas. Elle soupire. Tu dois t'impliquer, fille.
Mais, fille, sa manière de s'investir dans la commune, c'est la couture, même si ce n'est pas très terre à terre.
Je sais que quand on crève de faim, bien se saper, c'est pas la prio. Mais je peux pas m'empêcher de penser que le monde hors les murs de Belleville nous considère comme des crevards, des crasseux. Ils ont gagné la bataille médiatique quand ils ont crucifié nos combattants pour avoir osé briser des vitrines de luxe. Et les vieilles générations, déjà consumées par la peur de l'autre, par la haine de la différence et la méfiance, ont compris que les minorités voulaient tout détruire et qu'il fallait en finir. Mais à l'intérieur de cette dépossession générale, il reste malgré tout des formes de vie communes qui se cherchent, des gens pas totalement réduits au statut qui leur est assigné, et qui ont créé des liens de solidarité, forgé un langage, instauré des usages. J'aimerais pouvoir dire que les choses sont simples, qu'on peut établir des camps clairs dans cette guerre civile mondiale où tout le monde semble désormais faire partie du même bord. Je n'y crois pas. Je ne discerne rien, à peine un sursaut d'adelphité, un élan.
Phi navigue dans un monde de vengeance et de rêve, d'imaginaire et de colère, de magie et de deuil. Et elle appréhende le monde et ses émotions à travers la couture et la créativité. La couture y est une sorte d'allégorie ou de métaphore. Au milieu de la violence qui déchire la commune de l'intérieur comme de l'extérieur, le style et la mode sont pour Phi une manière de raccommoder les groupes, de nouer des liens, de tisser une culture commune, et c'est une forme de résistance aux normes.
Attends, une idée, là, juste là, tu la sens? À peine. Une phrase que tu m'avais dite un soir en rentrant de l'atelier. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Que nos fringues pouvaient être des boucliers contre l'oppression, qu'elles pouvaient nous protéger de la surveillance, de l'autorité, de la punition, et qu'elles étaient comme des vestiges du libre, qu'importait leur qualité, pourvu qu'elles soient venues de nous, du dedans de nous. Que l'insurrection, c'est aussi le style, notre expression jetée à la face du luxe et des imitations, notre besoin de différenciation perpétuelle, actualisé dans le taux de rafraîchissement rapide de nos identités. Tu te souviens, tu m'avais dit ça, tu...
La créativité est présentée comme quelque chose de super important dans la vie et dans les luttes, parce qu'elle permet d'inventer de nouvelles choses et de belles choses. À la fois d'un point de vue purement matériel, par exemple en cousant de belles robes, mais aussi en images, en fabriquant de nouvelles manières de relationner, de lutter, pour changer le monde et se changer soi-même.
Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste parce que j'ai besoin que le monde s'enferme pas dans une boucle, dans une prophétie autoréalisée, quoi. Donc moi, j'ai tendance à toujours envisager mes apocalypses comme vraiment le terme, c'est-à-dire de révélations qui amènent à quelque chose en fantaisie. On appelle ça la fantaisie de l'avènement, quoi. Donc on a des gens comme John Crowley, par exemple, qui peuvent travailler sur des choses comme ça. Moi, je crois à la transformation. Je pense que c'est fondamental en tant que personne transgenre aussi. Je crois que c'est très important d'accepter que le monde se transforme et qu'on doit transformer le monde et que notre regard sur le monde transforme le monde et que notre regard sur nous-mêmes transforme le monde. Et le post-apo, pour moi, il est toujours forcément... il tend vers la grâce, en fait. C'est obligatoire pour moi de tendre vers la grâce. Je ne vois pas pourquoi je ne voudrais pas tendre vers la grâce. Je n'ai pas envie de dire des choses qui ne tendent pas vers la grâce. Je n'ai pas envie d'ajouter ça au monde maintenant. Bien sûr que c'est important. Bien sûr qu'il faut dire que les choses... On n'est pas dans un monde de bisounours. C'est que la grâce, c'est une abstraction comme ça magnifique. Mais moi, ma place dans ce monde, elle est là. Et il a fallu que je l'assume, en fait, cette place-là, quoi.
Thank you.
L'écriture de Sabrina Calvo est une sorte de prose poétique. C'est une écriture nerveuse, très rythmée, qui ne se caractérise pas forcément par sa clarté, parfois on n'y comprend rien, mais on peut se laisser porter par les mots et l'ambiance onirique qui confèrent aussi un côté magique, fantastique, au texte. Le style est plutôt oral, un langage parlé, familier, avec pas mal de mots en anglais ou des formules entières écrites quasi en phonétique. Un des personnages parle une sorte de mélange d'argot et d'espagnol. Parfois, pour comprendre, c'est pas mal de s'amuser à lire le texte à voix haute et ça donne alors des passages assez vifs, notamment les dialogues.
Un matin, Pifou débarque avec sa clique croissante. « Sérieux, mec ?» Je l'accueille en full Marcel, sweat, pants et tatane compensée de chez Fendi et Coq Sportif. Il paraît qu'ici, c'est the place to be. Tout le monde me parle de vous dans le quartier. Je suis jalousie. Niaise-moi pas. Je vois déjà les têtards installer des sacs de couchage et, what, des tentes. On a une yourte aussi. Et du yaourt. Farah essuie ses mains sur le torchon. Alors, en cuisine, patate. Tétard regarde à vous. Oui, maman.
Le texte regorge aussi de références culturelles. On y trouve côte à côte des références à des chansons pop des années 80 ou 90 et des références plus intello, comme des extraits du poème de Walt Whitman ou de Novalis. Le titre « Melmoth furieux » fait référence à Melmoth ou l'homme errant, un roman gothique britannique du 19e, le début du romantisme sombre, qui a également inspiré un pseudonyme choisi par Oscar Wilde et le roman « Melmoth réconcilié » de Balzac. Il y a aussi les noms choisis pour certains personnages, comme François Villon, un poète du Moyen-Âge considéré comme le premier poète maudit, Gwynplaine, personnage grotesque de Victor Hugo qui a inspiré des figures comme le Joker dans Batman, ou encore Lou, qui fait penser à l'amour déçu de Apollinaire. Tout ça participe à créer cette ambiance gothique, sombre et romantique dont est imprégné ce conte de fées punk et sentimental. Mais ça a quand même fini par me mettre un peu le doute. Car ces références, ça se lit un peu comme un programme de fac de lettres, une liste d'auteurs à citer si on veut prétendre s'y connaître en littérature française. Tous des hommes évidemment, on ne s'attend pas à autre chose dans le canon académique français. En bonne compagnie des auteurs romantiques par excellence du côté anglo-saxon et allemand. Cet univers de poètes maudits manque un peu d'originalité pour moi. On se croirait au cercle des poètes disparus. Et ça confère un arrière-goût un peu forcé au style parlé des personnages. Un truc trop recherché, surfait. Pour préparer cette émission, nous avons écouté diverses discussions avec l'autrice et ça n'a fait que renforcer mon malaise. L'univers référentiel de Sabrina Calvo semblait être peuplé essentiellement d'hommes. Mallarmé, Barthes, Stirner ou John Crowley. L'exception à la règle étant Virginia Woolf. Et même si, pour certains, elle les cite pour exprimer un désaccord, il n'en reste pas moins que c'est comme si c'était forcément le savoir produit par des hommes qui fournit des repères à sa pensée. Franchement, j'ai trouvé ça un peu décevant. D'autant plus que, selon moi, ça rentre vraiment en contradiction avec d'autres positions de cette autrice qui me sont sympathiques politiquement, et qui se reflète dans ses récits. L'importance de s'auto-éduquer collectivement par des échanges de savoir et des ateliers de couture, l'importance des personnages féminins et ou queer, son refus de la fascination du pouvoir en parlant notamment de SF politique, son optimisme quant aux générations futures, et sa critique d'une vision fataliste d'une soi-disant nature humaine.
Même si certaines choses nous ont posé question, on a vraiment aimé ce roman et on espère qu'on vous aura donné envie de le lire. C'était le 14e épisode de Vortex et Rotative. On vous a présenté le roman Melmoth furieux de Sabrina Calvo. Ce livre, de 312 pages, a été publié en 2021 par La Volte.
Cet épisode était monté avec de la musique du groupe Bauhaus. Au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.